C'est des paroles de Jésus que je voudrais lire avec vous. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 19. Évangile de Matthieu au chapitre 19. Et pour ceux qui cherchent dans votre Bible, je vous demanderai simplement un verset pour l'instant. Le verset 21. Est-ce que c'est possible d'afficher le verset 21? Juste le verset 21. Le thème de ce matin, c'est un niveau un petit peu, comment vous dire? C'est compliqué à comprendre pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus ce matin. C'est compliqué à comprendre si pour vous, Dieu, c'est qu'une religion. Parce que les paroles de Jésus, ils sont exprès faites pour dérouter celui qui veut utiliser la religion pour garder son ancienne façon de vivre. Je crois qu'il y a plein de personnes sur cette terre qui choisissent la religion pour en fait garder tout comme c'est. Bizarrement, la religion, des fois, n'a certainement pas fait avancer les normes sociales. Comment ça se fait? Comment ça se fait que la religion a souvent freiné ce qui devait être des libérations de la société? Comment ça se fait que la religion s'est opposée à la démocratie? Vous savez pourquoi? Parce que souvent, la religion, elle nous permet de changer l'extérieur sans changer l'intérieur. Et Jésus est un révolutionnaire dans cela. C'est que il vous challenge. Dès qu'il vous parle, il vous dit la mentalité de Dieu n'a rien à voir avec la mentalité des hommes. Et le thème de ce matin, c'est une question qu'un jeune homme a posée à Jésus. Et parce qu'il voulait plus, il est riche, il a tout, il est bien. Bien dans ses biens. Et surtout qu'à l'époque, je ne sais pas si vous réalisez, mais aujourd'hui déjà, quand vous avez un certain niveau de vie, vous êtes respecté, vous êtes admiré peut-être, vous êtes jalousé aussi d'ailleurs, mais il y a une forme de réussite dans la vie qui inspire le respect. Alors, à combien plus forte raison quand on se retrouve au Moyen-Orient vers l'an 30 de notre ère, vers l'an 30 dans la Palestine de l'époque, si vous êtes riche, c'est que quelque part dans cette mentalité qu'il y avait à l'époque, qu'on retrouve aujourd'hui dans le Inch'Allah, par exemple, dans la religion musulmane, si vous êtes béni, quelque part, c'est qu'il y a une cause à cela et c'est une approbation de Dieu. Il y a un petit peu, si vous avez de la richesse, c'est votre destin. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Ah, c'est mon destin, quelque part je mérite. Et les disciples, ils raisonnaient comme ça. Et quand il y avait une catastrophe, ils disaient, ben, c'était certainement leur destin, ils ont mérité quelque chose de mal. Et si jamais ils sont riches, ils ont l'abondance, c'est certainement leur destin, mais c'est parce qu'ils méritaient quelque chose de bien. Un jour, il y a une tour qui s'est effondrée et les disciples ont demandé à Jésus, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ces hommes pour que la tour leur tombe dessus? Comment ça se fait que c'est sur eux qu'elle est tombée? Certainement, ils avaient fait des péchés, non. À l'époque, c'est comme si tout était écrit. Et Jésus va complètement bouleverser. Il y a un jeune riche, donc il est jeune, c'est bien, il est riche, c'est encore mieux. Il arrive devant Jésus et il dit, Maître, qu'est-ce que je peux faire pour avoir une vie éternelle? Déjà, j'aime bien cette du présent. Comment je peux faire pour que ça dure à jamais? En gros, comment je peux faire pour que ma vie soit encore plus grande? Pour que ma vie soit encore plus grande. Le thème de ce matin, c'est comment vous pouvez réussir une vie plus grande, une vie plus parfaite. Et Jésus lui répond. Alors que le jeune homme s'approcha, Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, tu vois, là c'est bien, mais si tu veux être parfait, va vendre tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres et tu auras un capital dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Je vous laisse réfléchir un petit peu si on vous disait ça ce matin. À quelqu'un qui vient lui demander comment je peux avoir une vie plus riche, Jésus lui dit, vends tout. Comment je peux être plus grand? Donne tout aux pauvres. Je ne sais pas si vous êtes des religieux ce matin, parce que les religieux ne vont pas aimer ce message. Une vie parfaite, c'est quoi? Et dans le monde d'aujourd'hui, Il y a plein d'explications, plein de possibilités. J'ai appris une statistique qui m'a fait froid dans le dos. Les Allemandes, vous savez, on met souvent l'Allemagne comme un pays de réussite, c'est super. Ils ont vraiment un des seuls pays européens qui arrive à tenir en période de crise, qui a toujours de la croissance. Bravo les Allemands, bravo notamment aux femmes allemandes. C'est bien parce que elles ont un taux d'emploi qui est particulièrement élevé en Europe. Elles sont extrêmement laborieuses. Mais j'ai appris une statistique qui m'a fait froid dans le dos parce que j'ai appris qu'une femme sur deux qui aujourd'hui a 45 ans en Allemagne et qui vit dans une grande ville n'a pas d'enfant parce qu'elle a privilégié sa carrière. Une sur deux, pas 20%, pas 30%. 50% des femmes vivant à Hambourg, à Berlin, dans toutes les grandes villes, à Munich, a sacrifié entièrement sa vie de famille pour avoir une réussite dans la réussite sociale. Alors c'est super, elles ont travaillé pour Sanofi, elles ont travaillé pour une entreprise qui était dans leur ville, elles ont travaillé pour Airbus, elles ont travaillé dans la pétrochimie, elles ont travaillé dans l'industrie pharmaceutique, elles ont travaillé dans les télécoms. Et puis, je pense qu'on va avoir des lendemains douloureux, hein. Parce que quand on arrive à 60 ans, 65 ans, et qu'on voit que le grand groupe qu'on a servi toute notre vie, pour qui on a sacrifié notre vie de femme. Alors l'accomplissement professionnel, c'est une chose, mais ça ne te remplira pas ta vie, hein. Tu auras toutes les promotions que tu veux. Peut-être certains d'entre vous êtes un peu dans la course à la promotion en ce mois de janvier en disant comment je peux monter. Accomplissement sentimental, combien de personnes sont prêtes à tout et pour essayer de rencontrer le grand amour, même à marcher sur leur honneur, à accepter des personnes que vous devriez jamais accepter dans votre vie, tout ça pour pouvoir dire j'ai quelqu'un dans ma vie. Combien de personnes sont prêtes dans l'idée de réussir sa vie financièrement à prendre des risques, à faire du n'importe quoi, toujours pour en avoir plus? Pour certains, il y a des gars aussi, je sais que dans cette église, il y a énormément de jeunes, peut-être pour votre passion, pour du sport, pour du foot. Jusqu'au jour où il y a un imbécile qui sans faire exprès vous casse le tibia et vous dites, ben, non seulement il a cassé le tibia, mais il vient juste de casser toute ma carrière. Un jeune homme riche vient, il a tout, et Jésus lui dit, vends tous tes biens. Ça plaît pas. Après, Jésus, dans une autre parabole, juste après, c'est au chapitre 20, et vous allez comprendre pourquoi je passe par là ce matin, essayez de me suivre dans mon raisonnement, je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc il y a un jeune homme riche qui dit j'ai tout, et Jésus lui dit ben si tu veux avoir encore plus, donne tout. Après il dit voilà, il y avait des personnes qui viennent pour travailler dans une vigne, et le maître convient avec eux un salaire, il se dit voilà, ça sera tant euros de l'heure, ils sont d'accord, ils signent, le maître les embauche. Il travaille la journée. Et puis, vers la fin de l'après-midi, moi je sais que j'ai travaillé un petit peu avec des amis qui sont dans le bâtiment. Vous savez, les journées dans le bâtiment, elles commencent tôt et elles finissent heureusement tôt. C'est-à-dire qu'ils se lèvent, ils sont à 6 heures debout, ils sont à 7 heures, 7 heures et demie sur le chantier et à 4 heures, normalement, c'est fini. Le travail est terminé, ils rentrent chez eux. Alors, Jésus dit, il y en a qui sont arrivés vers 4 heures et qui n'avaient pas de travail. Et le maître leur dit, bon, allez quand même bosser pour moi, et je vous donnerai un salaire. Mais vous savez ce qu'il a fait le maître, c'est qu'il leur a donné autant à ceux qui étaient arrivés à 4 heures de l'après-midi que ceux qui bossaient depuis 7 heures du matin. Alors, quand ceux qui sont arrivés à 4 heures ont reçu leur chèque, ceux qui étaient là depuis le matin ont dit, waouh, ils ont un beau chèque, ceux qui sont arrivés à 4 heures. Donc, théoriquement, c'est le jour des augmentations. Et en fait, ceux du matin, ils ont eu le chèque qui était prévu au départ. Ils n'ont pas eu plus. Alors ils disent, maître, mais on ne comprend pas. C'est quoi cette arnaque-là? Ceux qui arrivent en dernier, ils ont autant. Vous êtes toujours là? On va prendre le chapitre 19 et le verset 23. Enfin, même le verset 22, parce que ça va vous dire comment le jeune homme riche, lui, il a réagi. Pas très bien, hein? Vous devez vous en douter, pas très bien. Au verset 22 du chapitre 19, il est dit, quand donc le jeune homme, donc quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste, car il était très riche. Alors Jésus dit à ses disciples, vraiment, je vous assure, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, j'insiste, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est bizarre comme expression, non ? Un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille. On se dit, la Bible, elle est vraiment datée. Hein ? Oui, bah, pas tant que ça. Pas tant que ça. Parce que si vous analysez un petit peu mieux Jérusalem, vous allez comprendre. Ce n'est pas un proverbe juif bizarre du 1er siècle. Il y a des portes dans la ville de Jérusalem. Et ces portes, elles sont prévues pour que ne pas être trop grandes non plus, pour éviter les invasions. À part les grandes portes, la porte qu'on appelle la grande, il y a des petites portes dans la muraille. Ça, c'est les petites portes de service. Et il y en avait une qui s'appelait la porte de l'aiguille. Ça vous donne une idée de la taille de la porte. Et par cette porte, en général, ceux qui arrivaient en chameau, ils ne passaient pas la porte. Vous avez vu la tête d'un chameau ? Donc vous comprenez que déjà le chameau, il a plus de mal à rentrer par la petite porte de l'aiguille. Et c'est pour ça que Jésus dit ça. Il est plus facile à un chameau d'entrer dans le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. En entendant cela, les disciples furent très étonnés et demandèrent « Mais alors qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit « Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et lui dit « Et nous ?» Tout d'un coup, il a un doute. Si Lot, qui a certainement l'approbation de Dieu parce qu'il est très riche, il ne passe pas, moi qui ai quitté mon entreprise de pêche, ma SARL Pêche & Co, comment je vais arriver au ciel ? Et nous ? En gros, on n'a plus rien, nous, Seigneur. On a tout quitté pour te suivre. Qu'en sera-t-il de nous ? Et Jésus leur dit, vraiment, je vous l'assure, qu'en naîtra le monde nouveau et que le Fils de l'homme aura pris place sur son trône glorieux. Vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Et tous ceux qui ont quitté à cause de moi leur maison, leurs frères, leurs sœurs, leurs pères, leurs mères, leurs enfants, leurs terres. Peut-être certains, vous êtes venus de loin ici ce matin. Des fois, c'est dur. Je pense à tous ceux qui ont, dans les familles qui sont séparées, quand il y a des exactions. Je pensais au Mali et des choses comme ça. Recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. Mais beaucoup de ceux qui sont maintenant les premiers seront les derniers. Et beaucoup de ceux qui sont maintenant les derniers seront les premiers. C'est bizarre les mathématiques selon Jésus. Alors on va passer au chapitre 20 et vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit tout ça. Je pense que c'est le texte que je préfère dans la Bible. Donc je vais essayer de bien le lire. Parce que c'est un texte qui est extraordinaire. C'est celui qui nous dit comment on peut réussir notre vie, qui met la barre de la réussite. Vous êtes prêts ? On est parti. Dans Matthieu 20, verset 17. « Alors qu'ils montaient à Jérusalem, Jésus prit les 12 à part et leur dit en cours de route, « Voici, nous montons à Jérusalem. » Le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent à coups de fouet et le clouent sur une croix. Puis le troisième jour, il ressuscitera. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça vous coûte lorsque vous savez tout, que vous savez qu'il a même les détails de ce qui va lui arriver. Il sait exactement qu'il va avoir du fouet. Dieu lui a déjà révélé à l'avance qu'il va passer par la crucifixion, que ses mains vont être clouées. Il le sait et il y va quand même. Soit il faut être fou, soit il faut avoir vraiment une idée très très nette de pourquoi on le fait. Soit vous êtes fou, c'est-à-dire vous le faites sans aucun sens, ou soit vous savez exactement pourquoi vous le faites. Et Jésus n'est pas fou. Et il va à la croix et il annonce à ses disciples, il prend les 12 à part. Ce matin, on est 200 dans cette salle, mais c'est comme s'il vous prenait à part et dit, je vais te dire ce que je vais faire. Je vais aller mourir pour toi à la croix. Et je sais qu'il va y avoir ça, plus ça, plus ça. Alors, regardez le verset 20. Alors, la maman, la femme de Zébédée, la mère de Jacques et Jean, s'approcha de Jésus avec ses fils. Elle se prosterna devant lui pour lui demander une faveur. « Que désires-tu ? » lui demanda-t-il. Elle lui répondit, voici mes deux fils. Promets-moi de faire siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Vous savez, cette femme, pourquoi elle dit ça? Vous la jugez, je ne sais pas si vous la jugez mal. Mais il y a des choses positives là-dedans. Premièrement, la chose positive, c'est qu'elle croit que Jésus est roi. Et en fait, elle a quand même la foi en se disant, je sais que cet homme-là est plus qu'un homme. Je sais qu'il y a quelque chose de Dieu là-dedans. Parce que quand il va y avoir le royaume de Dieu, c'est lui qui va être le roi. Et quelque part, elle met sa foi en Jésus. Même plus que ça, elle dit, pour mes deux petits, je veux le meilleur. Et le meilleur, c'est qu'il soit près de toi. Donc, un à droite, l'un à gauche. Comme ça, si je ne suis plus là, c'est toi qui les surveilles. Hein. Non, mais il y a un petit peu de bon là-dedans. Et puis, évidemment, il y a du mauvais aussi. Il y a du mauvais parce que c'est toujours dans la même idée. Seigneur, si je peux placer mes deux petits à des bonnes places, ça me ferait plaisir. Et là, il y a quelque chose de très, très humain derrière. Il y a vraiment l'idée, ils méritent la place. Ils ont bossé pour toi. Et puis, je te le demande comme une faveur. Vous savez, je crois que là, il y a beaucoup de choses à dire parce que on le dit, on le sait, et pourtant, on fait la même erreur que cette femme. On fait tous, quelque part, la même erreur. Même dans les églises, on fait la même erreur. C'est-à-dire, vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement charnel déguisé par un beau truc spirituel. On dit, Seigneur, je veux être près de toi. Je veux juste qu'il soit numéro 2 et numéro 3, le plus haut possible dans la hiérarchie. Mais c'est spirituel parce que c'est pour ton œuvre. Et je crois que dans les églises, et je crois que beaucoup d'églises jouent là-dessus et ça marche. Et c'est pour ça que vous devez faire attention à quelles sont les valeurs. Et quand vous allez dans une église, vérifiez pour le pasteur comme pour les personnes, qu'est-ce que ça veut dire pour eux réussir. Et si réussir, c'est être au top, vérifiez qu'est-ce qu'il y a dans le top. Parce que si on vous dit vous allez devenir des champions, je suis très d'accord avec ça. Soyez plus grand. Mais si vous êtes des champions à la méthode Jean-Baptiste, c'est que celui qui diminue, c'est moi, et celui qui grandit et qui devient un champion, c'est Jésus. Alors ça change tout. Parce que des champions selon Dieu, c'est celui qui veut être avec moi, qu'il me suive, qu'il se charge de sa croix. C'est pas du tout l'évangile des champions. C'est dur à vivre ça. Mais si je vous dis, si vous venez à Jésus, vous avez la Mercedes, la Cadillac, vous avez les options, vous avez la Ferrari rouge si vous voulez, parce que Dieu est bon, il vous bénit, etc. Je peux vous vendre une position dans le royaume de Dieu. Mais regardez ce que Jésus répond à ça. Il répond et il dit, Jésus lui répondit, leur répondit, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Oui, lui répondirent-ils, nous le pouvons. Et ils sont sincères en plus. Jésus leur dit, écoutez, dans le royaume de Dieu, vous n'avez pas compris quelque chose. Réalisez, quand il leur dit, est-ce que vous réalisez la coupe que je vais boire ? Il est en train de parler, vous savez, à cette époque-là, la coupe, c'est la coupe de l'amertume. Il est en train de parler de ses souffrances à la croix. Il est en train de parler du vin, le vinaigre qu'on va lui mettre dans la bouche au moment où il est en train de mourir sur la croix, juste avant de pousser son dernier soupir. Il sait qu'il y a une coupe, qui est une éponge imbibée de vinaigre qui va lui être tendue et que c'est ça qui va couler de ses lèvres avant qu'il expire. Et il dit, vous ne vous réalisez pas ce que ça veut dire quand vous voulez être dans mon royaume. Mais les valeurs dans le royaume de Dieu sont toutes inversées. Et si vous voulez être le number one, ça veut dire que vous disparaissez en fait. Ça veut dire que celui qui veut être le plus grand, eh ben, il meurt pour les autres. C'est juste impensable. Vous imaginez quelqu'un qui voudrait être président, qui dise, ok, je vais être président, mais je vous promets une chose, j'habite dans le bidonville demain. Il n'y a personne qui dit ça. Il n'y a personne qui dit ça. Et Jésus va inverser et il dit, voilà, même plus que ça, si vous voulez être les plus grands dans mon royaume. Et ben, honnêtement, la place sera réservée pour deux personnes qui ont sacrifié leur vie. Donc, je ne veux pas vous vendre un rêve. Je vais vous dire la vérité. Vous ferez mieux de ne pas demander ça. Parce que les deux personnes qui seront à ma droite, à moi à gauche, ce seront certainement des personnes qui seront mortes pour le nom de Dieu. Donc, en gros, ils n'auront pas eu de vie. Alors, Jésus leur dit, donc, vous ne réalisez pas ce que vous demandez. Et verset 23, Jésus leur reprit, « Vous boirez en effet ma coupe, mais quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui mon Père les a préparées. » Oh, écoutez bien, ça va encore plus loin. Ça va encore plus loin. Jésus monte encore le niveau. Il dit, « Moi, je vais mourir pour vous. » Donc, je vous donne un exemple de qu'est-ce que ça veut dire grandir. Réussir sa vie, c'est la donner pour ses amis. Donc, je vais donner ma vie pour mes amis. Alors, ça me donnerait théoriquement des droits. Eh bien, même ça, je ne vais pas le revendiquer auprès de Dieu. Vous voyez, on peut penser que quand même quelqu'un qui s'est sacrifié pour vous, il a quand même un certain mérite, non ? Enfin, je ne sais pas, mais si quelqu'un vous sauvez la vie pour traverser un passage clouté ou vous juste vous donnez une information essentielle pour vous sauver, vous seriez infiniment reconnaissant vers cette personne et cette personne aurait un droit après de vous dire, hey, en retour, eh ben, Jésus-Christ, alors qu'il va mourir à la croix, il dit, je ne veux aucun passe-droit auprès de Dieu pour ce que je vais faire, même pas la possibilité de nommer mes deux potes, l'un à ma droite et l'un à ma gauche. Ça revient à mon Père. C'est-à-dire que je vais faire un acte, je vais donner ma vie et je ne demande rien en retour. C'est un acte complètement désintéressé. Alors, vous êtes prêts à mourir pour moi, d'accord ? Je vais vous dire jusqu'à où ça va. Ça va que quand bien même vous mourriez, eh ben même malgré ça, il faut avoir dans l'idée que ce que vous faites est complètement désintéressé. Et si les couples, ils appliquaient ça, ça c'est juste la merveille dans les familles. Si vous aimiez vos conjoints au point de dire non seulement je vais faire quelque chose pour toi qui me coûte le maximum, mais en plus, j'attends même pas un merci. Là, je lâche l'affaire, mes amis. Je suis pas au niveau. En entendant cela, les autres s'indignèrent. C'est terrible parce que on est facile à juger les autres. On voit l'orgueil chez les autres. On voit, mais c'est juste, ça sent les gens qui veulent de la place. Hein, la voisine, vous voyez bien hein, comment elle parle au patron. Ça sent qu'elle veut monter, non ? Comment elle lèche les bottes ? Vous les voyez, vous les voyez, les personnes qui essayent de se faire bien voir. Mais c'est à 20 000 qu'on les sent. Mais quand c'est vous ne le sentez pas. Et ce qui est étonnant, c'est que les autres, ils sont là. Oh, on vous a vu les deux, là. Et les autres, ils s'indignent tous, mais ils pensent exactement la même chose. Ils pensent exactement la même chose. C'est tellement facile de voir ce qui ne va pas chez l'autre. Balayez à votre porte. Alors, pour terminer, l'inversion des valeurs. C'est ça mon plus beau texte. C'est ça mon plus beau texte. Au verset 25. Alors, Jésus les appela tous auprès de lui. Y compris ceux qui s'étaient fait griller. Tous. Venez tous là. Les orgueilleux, les humbles. Les durs, les doux. Les calmes, les excités. Les colériques, les généreux. Venez tous. Vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, là ça va trop loin. Mais il est dit qu'il soit votre esclave. Même pour quelqu'un qui est très chrétien et qui aime beaucoup le Seigneur, même ça c'est dur à avaler. De même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Les grands de ce monde, les chefs politiques, Les grands personnages, ceux qui ont une vie grande, hein. Des fois, vous dites, waouh, quelle grande vie. Ah, ça, c'est une vie qui a du sens. Mais regardez, c'est des gens qui veulent être grands, ils veulent le titre. Mais en fait, ils veulent le titre et en faire le moins possible. Ça, c'est nature humaine, hein. C'est honnêtement, dans certaines familles, il y a les papas, c'est des pachas, hein. Ils veulent qu'on les respecte et qu'on dise, oui, père. Ils veulent être honorés quand il lit son journal dans le fauteuil, quand il est avec son iPad, là, auprès du coin. Il est tranquille, personne ne me dérange. Et enfant, fils, tu m'as manqué de respect. Et puis il dit, femme, amène le souper. Voyez, l'idée, c'est que je veux être grand et je veux en faire le moins possible. Les grands de ce monde veulent le titre et font peser sur les autres leur autorité. Ils font peu, j'avais jamais vu ça comme ça. Ils font peser sur les autres leur autorité. C'est-à-dire que quand vous grandissez, méfiez-vous. Parce que du coup, vous avez plus de pouvoir. Et si vous avez plus de pouvoir, vous pouvez obtenir des autres des choses que vous n'avez plus besoin de faire. Et c'est très dangereux. Et c'est très dangereux pour les pasteurs. Et c'est très dangereux pour les leaders. Et c'est très dangereux pour tout le monde dans l'église. Et c'est très dangereux qu'un jour le pasteur fasse plus que le pasteur. Et c'est très dangereux, et c'est très dangereux. Et c'est pour ça que vous ne verrez jamais à l'église un service du protocole ici. Parce que le jour où j'ai besoin de quelqu'un pour porter ma petite mallette, c'est très gentil de sa part. Mais ça me mettrait vraiment en danger, moi. Parce que ça veut dire que je ferai peser mon autorité sur quelqu'un pour qu'il amène quelque chose. Et là, il y a un problème. Il y a un problème. Lorsque j'ai besoin d'avoir un chauffeur qui m'amène en Mercedes limousine et qui ouvre la porte, vous dites, le pasteur Yvan, il est perdu. Vous comprenez l'idée? Ce jour-là, je suis perdu. Et c'est très dur à accepter, mais normalement, c'est ce que dit Jésus. Arrêtez avec votre mentalité du monde, vous les chrétiens. Parce qu'il parle à des chrétiens en haut, hein. Il n'est pas en train de parler à des gens qui ne connaissent pas Dieu. Il dit, vous qui êtes mes disciples, vous qui êtes mes plus proches, si vous voulez monter, descendez. Oui, mais descendez un peu, mais après on remonte. Non, tu descends et puis après tu continues à descendre. Et puis une fois que tu as descendu, bah tu continues un petit peu à descendre. Mais jusqu'où, Seigneur? Alors écoute, je ne vais pas te dire jusqu'où, je vais te dire jusqu'à où moi je suis allé, dit Jésus. Moi je vais aller jusqu'à donner ma vie pour mes amis. Après, je ne vous le demande pas, parce qu'il ne leur demande pas de mourir. Il leur dit, le Fils de l'homme n'est pas venu. Il dit, vous limitez-vous, le pire que vous pouviez faire, c'est être esclave de l'autre. Vous savez, le mot esclave, maintenant aujourd'hui c'est très fort, parce que on a vu tellement d'abus et d'horreurs avec ça. Mais le mot esclave, c'est quelqu'un qui ne revendique plus aucun droit. Vous avez compris? Quand vous êtes en Arabie Saoudite et que vous êtes une petite Philippine, vous êtes une esclave parce que quand vous arrivez à la frontière, en sortant de l'aéroport et que vous passez le poste de frontière, votre maîtresse va vous prendre votre passeport. Et du coup, elle va vous enlever votre identité. Et vous devenez son bien pendant un délai de 3 ans. Et en vous enlevant votre identité, votre carte, vous devenez quelque part esclave. Vous êtes une esclave. Parce que, en fait, vous n'avez plus aucun droit. Si un jour elle vous bat, comment vous allez aller devant un poste de police? Vous n'avez même pas une identité à présenter qui vous êtes. C'est ça qui est terrible. L'esclave, c'est quelque chose d'horrible. C'est parce que c'est quelqu'un qui dit, voilà, je n'ai plus d'identité. Eh bien, Dieu, c'est pas du tout vendeur, ton truc. Pour te servir, faut. Il dit au maximum, c'est d'aimer les autres au point que même quand vous lui servez un café et qu'au lieu de vous dire merci, elle te dit dégage. Ça, c'est être chrétien. C'est être chrétien, c'est quand tu vas à l'école du dimanche, tu essayes de donner ta leçon, tu as sacrifié ton samedi que tu voulais vivre avec ton mari tranquillement, tu arrives devant les enfants et tu as des insultes en face alors que tu as préparé ta leçon. Et que tu dis, Seigneur, je choisis de renoncer à mes droits. Et je ne te demande pas d'enlever tes droits. Mais c'est ça. Et ça commence par le pasteur en premier. C'est tellement beau, hein. C'est un niveau pour réussir sa vie. Alors, je termine sur une anecdote que moi j'ai vécu, mais j'ai vu ce passage de Pierre, j'entends pas beaucoup pasteur parler dessus, donc je vais en profiter. C'est Pierre, c'est le premier des pasteurs, on est d'accord, hein? L'apôtre Pierre, il a géré l'église de Jérusalem, après il a géré l'église de Rome. Et théoriquement, certains se revendiquent de lui, mais ont du mal à appliquer. Hein. Bon. Je ferai à présent quelques recommandations à ceux parmi vous qui sont des responsables d'église. Il y a des responsables de service ce matin. Il y a des personnes. Le mot, c'est des anciens. À vous qui êtes des anciens dans la foi, tous ceux qui ont plus de 10 ans de conversion, écoutez là. Je leur parle en tant que responsable comme eux et témoin des souffrances du Christ. Moi aussi, qui ai aussi part à la gloire qui va être révélée. Comme des bergers. Et ils ne parlent pas qu'aux pasteurs, hein. Comme des bergers. Prenez soin du troupeau que Dieu, de Dieu qui vous a été confié. Quand vous êtes responsable de votre service, librairie, CD, je sais pas moi, école du dimanche, quand vous faites les responsables du service ménage, ce troupeau vous a été confié. Veillez sur lui. Non comme si vous étiez forcé, parce que des fois, on a l'impression, mais bon. Mais de plein gré, ainsi que Dieu le désire. Faites-le, non comme si vous étiez contraint, mais par dévouement. C'est dur, Seigneur, renouvelle nos forces ce matin. Pour certains, vous êtes impliqués dans un service et c'est devenu une corvée. En vérité, c'est devenu une corvée. Alors, vous devez commencer à prier. Seigneur, tu m'as mis responsable ici, tu m'as donné des années de conversion. Alors, je veux grandir maintenant. Je veux grandir, je veux être plus riche, mais spirituellement. Je veux être plus riche émotionnellement. Je veux être plus riche pour être comme toi. Seigneur, non par contrainte, mais par dévouement. N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui vous ont été confiés à vos soins, mais soyez les modèles du troupeau. Alors, quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Moi, j'ai connu des églises où les pasteurs, c'est pour ça que j'ai un petit peu, j'ai quelques problèmes parce que j'ai une église où vous êtes beaucoup de personnes qui viennent d'Afrique et vous avez un respect pour les pasteurs, c'est formidable. C'est un truc, je comprends aussi pour qu'il y ait autant de gourous chez vous. Hein. Parce que vous êtes tellement gentil avec vos pasteurs, des fois, vous êtes dur aussi. Mais vous avez beaucoup de respect. Et je ne sais pas s'il est là, le frère. J'ai un frère, mais je pense qu'il serait d'accord parce que c'était vraiment pour m'honorer. Le frère Niki, le doyen de nos Africains ici. Il est venu vers moi, un homme qui a vraiment. Voilà, qui. Toute sa vie pour Dieu, un prestige social, même parce il a eu un très bon métier. Et il arrive vers moi, alors qu'il est cadre sup, et bien, bien, bien à la retraite. Il vient vers moi, pasteur, à l'époque, je devais avoir 26 ans. Lui, avec sa canne, il vient. Bonjour, papa, pasteur. Alors, pasteur, je comprends, mais papa, je comprends pas. Hein. Et puis, il me dit, bonjour, papa, pasteur. Chez nous, c'est papa parce que c'est le respect. Je dis, oh non, mais dis-moi, Yvan, c'est bon. Hein. Il dit, non, papa, pasteur. Et j'ai compris que dans sa mentalité, ce n'était pas du tout une question d'âge, c'est juste une question de respect. Mais j'espère que vous n'allez pas tomber sur des filous. Que vous n'allez pas tomber sur des filous. Parce qu'il y en a qui peuvent profiter très vite de dire, oh, je suis quelqu'un. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre, il dit, vous qui êtes responsable, jusqu'à ce que vous ne me voyez plus. L'estrade, il est petit ici. Hein. On va peut-être en mettre un si jamais vrai, mais bon, pour gagner 10 centimètres, pas plus. J'ai peur des grandes estrades. Toute ma vie, quand j'étais petit, j'ai cru que le pasteur, c'était celui qui était servi. J'étais dans une église et on se battait. On se battait. C'est le cas aujourd'hui dans certaines églises. On se battait pour faire plaisir au pasteur. Mais quand je dis on se battait, c'est presque on se battait. Entre jeunes, on se faisait des plans pour essayer d'être le mieux vu, d'être le premier qui ouvre la porte. Bonjour. On le faisait. C'est bizarre parce qu'on le faisait à la fois pour Dieu, puis à la fois. C'est compliqué, c'est difficile à analyser. Mais vous voyez, j'avais un peu l'idée que le pasteur, ça allait être le super chef, le superman de l'église. Et puis j'entendais tellement de prédications avec c'est loin de l'éternel, alors comme s'il avait eu. Des fois je me dis, mais je la vois pas, l'onction là, elle est. Et parce que j'étais dans l'Ancien Testament, le pasteur il se faisait appeler quasiment Moïse. C'était le serviteur de Dieu. Nous on était quoi alors? Je ne sais pas. Parce qu'on est tous des serviteurs et des servantes, non? Je pense. Puis si vous n'êtes pas oint, il y a un problème, parce que théoriquement, vous avez tous reçu l'Esprit de Dieu qui fait de vous des fils et des filles du roi. Vous êtes remplis de son esprit, vous êtes oint autant que moi. Alors, ça m'a fait revoir toute ma théologie. Tout d'un coup, j'ai dit, non, ben, en fait, pasteur, c'est ce qu'il y a en dessous de nettoyer les toilettes. Parce qu'au royaume des cieux, celui qui travaille dans la cuisine, il est plus grand que celui qui est sur l'estrade. J'entends pas d'amen, c'est le temps que vous réfléchissiez. C'est difficile à accepter. Mais vous voyez aujourd'hui, si vous dites ma vie elle est ratée, je fais que le ménage. Je dis ben alors la mienne, mais je suis que pasteur. Tu comprends? Dans le royaume des cieux, si tous, ça ne peut pas marcher ça, si jamais tous, on n'a pas l'idée de se dire, il faut qu'on meure à nous-mêmes. Parce que dès qu'il y en a un qui veut profiter, il arnaque tous les autres. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'églises qui tournent mal. Parce que dès qu'il y en a un qui arrête qui utilise l'évangile, la religion, hop, qui transforme pour garder un statut, c'est-à-dire qui enlève ce texte de la Bible et qui enlève cette idée que pour être le plus grand, faut être le plus petit, le serviteur des autres. Il met une église au garde à vous. Il obtient des résultats extraordinaires parce que les chrétiens sont très gentils et qu'ils veulent obéir et qu'ils aiment le Seigneur. Et les gens de ce monde disent, ils sont fait plumer. Alors ça, ce livre, il marche que si vous prenez tout. Ce livre, il ne peut être valable que si vous prenez tout. Parce qu'avec ce livre, autrement, si vous oubliez ça, vous allez permettre un jour, ce qu'ont permis les religions, c'est à des Hitler d'apparaître. Et c'est terrible. Si vous prenez ce livre et que vous oubliez la mentalité que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur de tous, vous allez faire en puissance des petits dictateurs. Alors priez pour vous ne pas le devenir déjà. Priez pour que quand Dieu vous donne la réussite, parce que je vous souhaite d'avoir une grande réussite dans la vie, que Dieu vous donne une vie grande et riche, comme le jeune homme riche. Et vous savez pas quoi? Le premier sera le dernier. Donc c'est pas très grave s'il n'y a pas eu l'augmentation en fait. Parce que vous avez un royaume dans le ciel. Parce que notre royaume, notre héritage n'est pas de cette terre. Oh, c'est quand même bien d'être chrétien sur la terre. Faut arrêter, moi je me plais, c'est une joie, c'est super. Mais mon royaume et ma vraie récompense, c'est là-haut. Pour toi qui fais, je ne sais pas si tu es fatigué ce matin, alors qu'on va fermer les yeux, je vais demander aux musiciens de venir, mais alors que tu es fatigué, tu dis, Seigneur, je suis découragé, pourquoi je fais ça? Est-ce que ma vie a du sens? À chaque fois que tu fais quelque chose pour le moindre de mes disciples, le plus petit, si tu le fais pour moi, c'est à moi que tu l'as fait, dit Jésus. Moi, j'aimerais bien redonner à Jésus un peu de tout ce qu'il m'a donné. Quand on était dans l'eau glacée hier soir avec John, avec Jean, à essayer de retirer la bâche pour les tonnelles aujourd'hui pour que certains puissent manger à l'abri, et qu'on avait les pieds gelés, les mains gelées, parce que l'eau, elle était à zéro. Hein. Et ben, je me dis, Seigneur, si ce petite chose qu'on est en train de faire, ça fait de nous des serviteurs, c'est génial. C'est génial. C'est génial. Seigneur, mets dans mon cœur, alors que les yeux sont fermés, les têtes sont baissées, Seigneur, mets dans mon cœur une âme de serviteur. Je veux réussir ma vie, Seigneur. Donc je suis prêt à la donner. Alléluia Jésus. Alléluia. Seigneur, donne un réveil dans ton peuple. Seigneur, je te prie pour tes églises. Nous aussi, on a plein de défauts, Seigneur. Montre-moi mes défauts. Montre-moi mes défauts. Et je te prie pour nos églises, toutes nos églises qui se disent des fois évangéliques, Seigneur, alors qu'on vit vraiment l'évangile de l'humilité. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui font quelque chose dans l'Église, même le plus petit, le plus ingrat des services, Seigneur. Donne-leur de tenir jusqu'à la récompense qu'il y a dans le ciel. Alléluia. y a un chant que chantaient nos anciens qui disait « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien ». À propos des héros de la foi, la Bible dit « Certains ont vu, d'autres n'ont pas vu, mais tous sont restés fidèles ». On peut se lever ensemble. Je ne sais pas si vous connaissez ce cantique, mais vous pouvez même fermer les yeux si vous le connaissez par cœur.
Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne. Seigneur, oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout avec
reprendre place.